accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Desbois d'Effre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends.
J'accuse. Voilà le titre. En caractère d'affiche, sur toute la première page, on tire à 300 000. Demain matin, il nous faut des centaines de crieurs de journaux. Prévoir un affichage massif.
Émile Zola et son célèbre « J'accuse » dans l'Aurore, Stéphanie.
Eh oui, vous l'avez reconnu, que les Français, les Parisiens d'abord. Oui, oui. Non, ben, quand même, c'était le film d'Yves Boisset, « L'affaire Dreyfus » avec Jean-Claude Rouault dans le rôle de Zola. Les Français, les Parisiens d'abord l'ont découvert le 13 janvier 1898, au petit matin. Dans la nuit, la lettre de Zola avait été mise sous presse. Et au matin, donc, l'Aurore était partout, la bombe. Toute la journée, se souviendra l'écrivain Charles Péguy, toute la journée, les Camelots, à la voix éraillée, crièrent « L'Aurore ». Coururent avec l'Aurore en gros paquet sous le bras, distribuèrent l'Aurore aux acheteurs empressés. Ce beau nom de journal planait comme une clameur sur la fiévreuse activité des rues. Le choc donné fut si extraordinaire que Paris faillit se retourner. Vous vous rendez compte, hein, c'est un vrai choc.
Beau texte, en tout cas.
Ouais, beau texte, hein. Par ce geste, qu'il qualifie lui-même de révolutionnaire, le romancier Émile Zola va entrer dans l'arène politique et incarner, après Voltaire, après Hugo, la figure de l'intellectuel engagé, celui qui se dresse pour défendre un homme innocent et seul, broyé par un système qu'il dépasse, et pour rétablir la vérité. Alors, je rappelle les faits. À l'époque, là, ça fait 3 ans que le capitaine d'état-major juif, Alfred Dreyfus, a été reconnu coupable d'espionnage. Condamné au bagne à perpétuité, il croupit sur l'île du Diable en Guyane. Mais sa famille en France a décidé de se battre et au fil des mois, ils réussissent à réunir de plus en plus de preuves qui accablent un autre homme, le commandant Esterhazy. Mais à chaque procès, curieusement, toujours à huis clos bien sûr, la justice militaire innocente, c'est Esterhazy, et confirme la culpabilité de Dreyfus, un juif, donc le traître idéal. Tout ça dans un climat d'antisémitisme dont on a du mal à imaginer la force, d'une rare violence dans la rue, dans la presse, dans les tribunaux, on crie mort aux juifs. À la Chambre, les députés, à une écrasante majorité, soutiennent l'armée, la droite, mais aussi la majorité des socialistes et la quasi-totalité des radicaux. Même Jaurès, à cette époque-là, n'est pas encore Dreyfusard. Les défenseurs de Dreyfus, donc, à ce moment-là, ne sont qu'une poignée, quelques honnêtes hommes, pourrait-on dire. Et c'est donc là, en janvier 1898, alors que tout espoir semble anéanti, qu'Émile Zola va intervenir. Par un coup de génie, vraiment, à ses yeux, il faut révéler les dessous de l'affaire à tous les Français, éveiller les consciences, et il prend le risque personnel, hein, c'est important, de s'exposer à des poursuites judiciaires, afin que l'affaire soit portée aux assises et donc au grand jour. Le 12 janvier, avec le texte sous bras qu'il vient de rédiger, Zola se rend à la rédaction de l'Aurore, où il expose son plan au directeur.
Le seul recours, c'est l'opinion publique. Vous frappez un grand coup, la saisir, l'émouvoir.
C'est dans la presse quotidienne qu'il faut intervenir désormais. La presse va jouer un rôle nouveau, essentiel, dans la vie politique et culturelle. Nous l'avons déjà vu dans toute cette affaire. Nous avons vu la basse presse en rut. J'ai décidé plus donner d'article au Figaro. Ce journal vient de tomber dans le camp de l'anti-dreyfusisme systématique. Je vous propose ma lettre au président de la République.
J'accepte, monsieur Zola, j'accepte sans hésiter.
Et bien sûr, Stéphanie, ce j'accuse va provoquer un tollé, carrément.
Eh oui, un tollé à Paris, en province, des défilés conspus, Zola et les Juifs. À Alger, on assiste même à des vrais pogroms. Mais comme le voulait Zola, son j'accuse va à terme conduire à la révision du procès de Dreyfus et à son acquittement. Mais cela prendra beaucoup de temps et Zola en paiera le prix fort. D'abord, littéralement, hein, le prix fort pour payer les frais de justice et les amendes. Mmh. Ensuite, il subira la haine, les insultes, l'exil et finalement la mort. Il meurt en 1902, asphyxié chez lui. On sait depuis quelques années que l'accident était en fait un meurtre. Les antidreyfusards n'avaient donc toujours pas pardonné son j'accuse.
Les grandes nuits, les petits matins d'histoire avec Stéphanie Denken, Bazoula, voilà, c'est un désobéissant. C'est très raccord avec notre désobéissant, Xavier Renoux, non?
Oui, ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, des j'accuses, il y en a régulièrement.
Oui,
l'affaire Elf, les bombardements de l'Afghanistan et plein d'autres. Et ils ont beaucoup moins de poids. Nous, avec les désobéissants, on a fait une action spectaculaire contre Hubert Védrine, qui était conseiller de François Mitterrand au moment du génocide des Tutsis du Rwanda, au moment où la France soutenait ce génocide, et le j'accuse devait se faire devant les caméras de M6, sauf qu'il a appelé M6 pour que le reportage soit éliminé.
Bah, vous auriez pu choisir autre chose qu'M6, vous lui avez balancé la peinture rouge, non?
Oui, c'est ça. Ouais.
Des j'accuse et des désobéissants ce petit matin.